Donc, le 28 février de l'année dernière, notre fils Stanislas a été renversé par une voiture à 70 km/h. Pour tous ceux qui ne sont pas scientifiques, ça fait l'équivalent de tomber du quatrième étage directement sur le sol. Il est inanimé, il tombe dans un coma extrêmement profond, un des comas dans les 5% les plus graves. Il y tombe de façon naturelle, puisque 95% des gens y tombent de façon artificielle. Donc voilà, pour vous dire la gravité de cet accident. Il est emmené tout de suite à Necker, opéré. Il a un hématome extrêmement lourd dans le cerveau qui lui écrase le cerveau et qui menace de faire exploser son cerveau. On n'a évidemment pas le choix que d'accepter une opération qui est évidemment en tant que telle extrêmement dangereuse, puisque sa vie est en jeu. Mais évidemment, on n'a pas le choix. Quelques heures après l'opération, c'est a priori bien passé, mais évidemment, on nous annonce que la première IRM a été faite. Son cerveau connaît des lésions profondes, diffuses, jusque dans le tronc cérébral, qui est le siège de la capacité du corps, qui régit plutôt, excusez-moi, tout ce qui est nécessaire à la digestion, la respiration et au rythme cardiaque. Donc on nous annonce effectivement que voilà, ces chances sont sont extrêmement limitées. Évidemment, vous connaissez les médecins, ils ne se prononcent pas beaucoup. Les jours qui suivent, évidemment, nous mènent dans une attente extrêmement douloureuse. Nous confions évidemment notre fils au Seigneur. Autour de nous, beaucoup, un élan de charité et de prière qui nous a très très largement dépassés et dont certains d'entre vous ont peut-être fait partie. C'est un élan de prière qui a été évidemment parisien, national, même international. On a eu la chance d'avoir des amis qui ont prié pour nous, des amis chrétiens du Japon aux États-Unis, au travers d'un petit WhatsApp que mon épouse a décidé de lancer. Pareil que certains d'entre vous ont peut-être suivi pendant tout le carême de l'année dernière, où on a effectivement, notre but premier n'était pas de faire parler de nous, mais était avant tout d'abord par charité pour les gens qui priaient pour nous, de donner des nouvelles et puis de le lier avec des choses simples que nous puisions dans l'Écriture sainte autour de ce carême. Quelques éléments, le 9 mars, alors qu'effectivement il n'a tout évidemment toujours pas retrouvé la conscience, qu'il est encore en réanimation, il se désentube alors qu'on a l'impression qu'il n'a pas de conscience. Il arrive à survivre sans intubation respiratoire pendant toute une nuit, ce qui est déjà une surprise pour les médecins. Le 16 mars, il y a un staff, donc staff médical, dont on aura eu connaissance plus tard, dont on sait qu'effectivement il commence à se prononcer sur la nécessité de réanimer. Alors, étant chrétien, nous avions annoncé aux médecins que voilà, la vie ne nous appartenait pas, la vie de notre enfant ne nous appartenait pas, donc nous n'étions pas pour l'acharnement thérapeutique. Si son heure était venue, évidemment, nous les laisserions partir, mais il y avait aussi des lignes rouges que nous ne franchirions pas de l'autre côté, puisqu'encore une fois, la vie ne nous appartient pas. Et là, mon épouse demande à Stan, qui est donc évidemment d'apparence inanimée, lui dit voilà, il est temps que tu donnes un signe, fais quelque chose. Et on a à ce moment-là, je me retrouve seul, si ça veut dire que ce signe va m'être donné, où je claque des doigts devant ses yeux pour essayer d'obtenir des battements de paupières. Rien ne vient du côté des paupières. Les médecins n'arrêtent pas de lui dire, essaie de serrer la main pour dire si tu es là. Je me dis, s'il a le neurone qui dit le verbe serrer dans son cerveau et qu'il a explosé, je ne sais pas comment il va pouvoir vous répondre. Et donc, en claquant des doigts, tout d'un coup, je claque deux fois et il claque deux fois des doigts. Voilà. Donc, ce premier petit signal est envoyé à l'issue d'une neuvaine à Saint-Joseph qui, ça ne vous surprendra pas, se termine le 19 mars. Après, le 26 avril, à l'issue d'une autre neuvaine, il va murmurer « Maman ». Donc là, c'est évidemment une grande surprise pour nous, puisqu'on nous avait annoncé qu'il ne dépasserait pas au mieux l'état qu'on appelle végétatif, c'est-à-dire un état où la personne n'a normalement même pas de conscience. Donc là, évidemment, le doute commence à se lever assez largement dans l'esprit des médecins. Déjà, Stanislas a vaincu le pronostic des médecins. Un autre élément, c'est l'IRM dont je vous ai parlé, effectivement, qui donnait des lésions profondes, diffuses. Le cerveau, en fait, les lésions dans un cerveau n'apparaissent pas. Elles apparaissent toujours au niveau de l'IRM. Quand le cerveau les surmonte, en fait, il recrée des connexions autour de ces lésions. Il s'avère que l'IRM du mois de juin va faire apparaître, donc il va être fait par le même neurochirurgien que celui qui l'aura opéré au moment de son accident, et fait apparaître qu'en fait, il n'y a plus même plus de lésions qui apparaissent. Il apparaîtra juste une toute petite tache, mais absolument minime. Il en conclut qu'effectivement, il n'a jamais vu ça. Il ne sait pas quoi dire et il dit qu'effectivement, son travail s'arrête là. On est en juin. Donc Stanislas va progressivement commence à reparler. Il revient le dimanche à la maison. Et Pentecôte de l'année dernière, alors qu'on se partage pour aller à la messe de façon alternative en famille, alors qu'il n'a été que dans la capacité, quand il s'exprime, de répondre à oui ou non ou de répondre à des questions fermées, il en fait délivre son premier récit que je vais recueillir, qui redonnera à mon épouse quand elle reviendra de la messe de Pentecôte, et qui va effectivement être son expérience, une expérience de mort imminente. Vous imaginez bien que cet enfant de 12 ans n'avait jamais entendu parler des expériences de mort imminente et qu'il n'était pas non plus dans un état psychologique pour inventer. C'est son premier récit qui va durer 30 minutes. Je vous donne quelques faits saillants. La première, c'est qu'effectivement, pendant son accident, il a vu le Christ baigné de lumière qui avait porté sur lui ses blessures. Et en fait, Stanislas a voulu s'approcher de lui. Le Christ lui tendait les bras. Donc je me suis dit, bon, il va lui dire, Jésus, tiens, referme les bras sur lui. Voilà, ça va être une belle histoire. Et en fait, Jésus, qui portait aussi les propres blessures de Stan, c'est-à-dire une au front et une sur la cuisse où il était très largement ouvert, en fait, va lui dire, non, je ne peux pas te prendre dans mes bras. Tu vas retourner sur terre. Ce n'est pas ton heure n'est pas venue. Première chose. Deuxième chose, il verra ma grand-mère qu'il avait connue, qui était décédée à l'âge de 96 ans. Et à la question évidemment très curieuse que je lui pose, je lui dis, mais à quoi ressemblait grand-maman? Elle était vieille ou elle était jeune? Et pareil, une phrase, je pense qu'un enfant de 12 ans ne peut pas trop inventer. Il dit, en fait, elle avait à peu près son visage de quand elle était vieille, quand elle était morte, mais elle était tellement resplendissante de lumière qu'elle apparaissait comme jeune. Voilà, je me dis finalement, il met des mots de façon assez évidente sur ce qui est l'au-delà. Évidemment, il fait part d'un immense bonheur à l'état pur, palpable, presque matériel, tellement fort, tellement prégnant. Et il nous dira, voilà, je suis content d'être, papa, maman, je suis content d'être venu parmi vous. C'est évidemment du plaisir, mais qu'est-ce que je préférerais être resté là-bas. Et un dernier élément, c'est une expérience aussi, il a fait expérience de, ce qu'on appelle des expériences de mort imminente négative, puisque effectivement il a aussi vu l'enfer. Et il dira aussi une phrase qui, voilà, encore une fois, un enfant de 12 ans, je pense, ne peut pas inventer. Il disait, il voyait des gens armés, il dit, ces gens-là ne s'aimaient pas, ils ne s'aimaient pas entre eux, ils aimaient leurs armes. Voilà. Donc Stanislas, aujourd'hui, va remarcher, on a rendu son fauteuil il y a quelques jours, voilà, c'est une évidence, il est encore en déambulateur, il a des petits troubles de mémoire encore, mais il a repris l'école. On ne sait pas quel sera son handicap ultime, mais c'est évidemment déjà un miracle, et ça va sans dire, mais son cœur s'est évidemment très largement tourné vers Dieu, et il rayonne dans notre famille et au-delà. Au-delà, puisqu'effectivement... Au-delà, puisque effectivement, nous connaissons dans notre entourage, je n'en citerai que quelques-uns, des débuts de conversion. J'ai un ancien collègue du travail, voilà, qui se retourne, qui revient progressivement vers Dieu et qui va chercher peut-être progressivement à demander le baptême pour sa fille. Voilà, nous prierons ce soir pour Franck et Violette. Nous avons deux très bons amis qui nous avaient promis que si Stan hérissaient, ils demanderaient le baptême de leur fille. Voilà, ils nous ont demandé, cette petite fille, Charlène, va se préparer au baptême l'année prochaine. Nous serons le parrain et la marraine, mon épouse et moi-même. Une personne au moins, comment sage, dans cette assemblée a été touchée par une parole de connaissance. Alors c'est assez étonnant parce que cette parole de connaissance a eu lieu le 16 mars au soir, qui devait donc être un jeudi, et qui est en fait le jour où Stanislas est sorti du coma. Je vous lis ce que dit cette amie de mon épouse. Une des amies de l'équipe Notre-Dame de Catherine a entendu qu'un petit garçon venait de sortir du coma et avait vécu une expérience spirituelle incroyable. La seconde fois, c'était le 23 mars, donc une semaine après, j'y étais et la parole était que des parents qui avaient beaucoup prié pour la guérison de leur enfant et avaient gardé confiance dans l'amour du Seigneur allaient être consolés. Le Seigneur ne les oublie pas. il s'avère que voilà, cette dame recevait le WhatsApp, a fait le lien entre notre histoire et cette parole de connaissance qu'elle a entendue ici. Et cette parole de connaissance, enfin, cette corrélation entre les deux, je le comprends, a été quelque chose d'assez refondateur dans sa vie. Il s'avère qu'effectivement, cette parole de connaissance m'avait été mentionnée aussi par mon frère qui vit à Nantes et qui ne pratique pas les assemblées de prière charismatique, qui est très chrétien, mais qui est plutôt traditionnel. Pour terminer, trois petites conclusions. La première, c'est évidemment la force de la prière et de l'abandon. Voilà, c'est quelque chose dans lequel nous on s'est tout de suite livré. On a vécu pendant ces deux mois où l'existence de Stanislas était compromise. On a vécu à la fois des moments extrêmement douloureux, mais aussi des moments d'extrême grâce où on a senti qu'on était porté par quelque chose d'extrêmement fort, par la prière de toute cette communauté chrétienne, de tous nos amis. Et ça a été même presque deux mots. Parfois, on pleurait de joie avec mon épouse. On se disait, mais c'est quelque chose qu'on ne pourra pas raconter. Voilà. Ce soir, évidemment, on peut le raconter, qu'on pleurait aussi de joie, même pendant ces moments où on n'était pas sûr que notre fils vive. Deuxième enseignement, le paradis, le père l'a dit tout à l'heure, je vais essayer de le dire encore plus fort que lui. Le paradis, c'est voilà, le bonheur qui nous est promis. Souvent, on a un peu tendance à penser que c'est un bonheur un petit peu ascétique, il va falloir faire encore des efforts. Là, voilà, de cette expérience que Stanislas se raconte, le bonheur, enfin, voilà, notre vie de chrétien aujourd'hui, c'est pour un bonheur à l'état pur. Voilà, à l'état pur. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement palpable, d'extrêmement fort. C'est pas quelque chose d'éthéré, c'est pas quelque chose de fictif. C'est quelque chose, voilà, peut-être parfois on n'en prend pas assez conscience que c'est vraiment le bonheur. Voilà. Et troisième, et je terminerai par là. Les guérisons et les miracles, ce miracle, voilà, on croit que toujours le miracle c'est pour les autres. Ben voilà, un jour ça nous tombe dessus et quelque part c'est un cadeau empoisonné. C'est pas un cadeau empoisonné, mais c'est un cadeau difficile à porter. Alors évidemment vous vous dites, bah oui, lui il a eu de la chance, son fils a été sauvé. Oui, on a eu de la chance. Oui, on a eu une grâce qui nous a été donnée. Elle va servir de témoignage. Mais je peux vous assurer que cette guérison, ce miracle qui a concerné notre famille, nous oblige et nous met en face de notre indignité. Tous les jours, je me dis, mais qui sommes-nous ? Qui suis-je pour avoir mérité ? D'ailleurs, je ne l'ai même pas mérité, ce miracle. Voilà. C'est donc toujours pour nous rappeler que ces miracles sont pas là les miracles ne sont pas là en tant que tels, pour eux-mêmes, ils sont là pour notre conversion. Et quand Stan me dit, mais est-ce que tu me crois quand je te raconte ce que j'ai vu dans l'au-delà, je lui dis, tu sais, en fait, j'ai pas besoin de croire à ce que toi tu me racontes. L'essentiel, c'est que je crois à ce que tu as vu. Voilà. Donc, et je terminerai par là. Voilà. Le plus important, c'est, je crois que le père me contredira si je dis faux. C'est Thérèse d'Avila ou Saint Jean de la Croix qui disait, voilà, recherchons le Dieu des consolations et pas les consolations de Dieu. Merci.